Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour la Calade, bonjour le Beaujolais et bonjour le Val-de-Saône. J'espère que vous allez bien ce mardi 27 septembre 2022. Une journée nuageuse dans le Beaujolais. On attend des petites averses à partir de cet après-midi. Et les températures ne devraient pas dépasser les 17 degrés. Au programme de notre émission, on va parler famille, couple, relations humaines en général avec une toute nouvelle chroniqueuse. C'est Céline Benck, conseillère conjugale qui va nous rejoindre. On va terminer notre rendez-vous avec notre libraire Bertrand Lamure pour parler littérature. Mais avant ça, nous allons parler de la maison Vermorel, petit morceau de patrimoine caladois dont la municipalité prend le plus grand soin avec un projet de réhabilitation qui a débuté, je crois, en 2017, je dirais à peu près. Les travaux devraient se terminer fin 2023, début 2024. En attendant, il s'y passe de belles choses. Tout l'été, le parc Vermorel a accueilli des concerts et des séances de cinéma. Et la ville de Villefranche vous donne rendez-vous et bien, ce dimanche 2 octobre pour une nouvelle journée festive et gourmande. On va donc en parler un petit moment. Pour cela, je reçois aujourd'hui Charline Maurice, directrice adjointe à la culture de Villefranche. Tiens, je savais pas trop comment commencer l'émission. J'ai vu qu'il sera question évidemment de l'Institut Vermorel et de l'automobile. L'occasion d'écouter un de mes artistes préférés, Philippe Catherine, avec un morceau qui s'appelle Automobile. C'est le privilège de choisir la musique, j'ai le droit de mettre des trucs bizarres de temps en temps. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. Regarde, 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 regarde. Regarde la fille sur le vélo. Comme elle fait bien du vélo, comme elle se tient bien le dos. Sommes-nous rue de Rivoli, ou sommes-nous au paradis? Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile.
Non.
Des automobiles, des automobiles.
Non.
Des automobiles partout. Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles. Des automobiles partout. Regarde.
Quoi?
Regarde.
Hein?
Regarde.
Là?
Regarde.
Quoi?
Regarde la fille au vélo. Elle s'approche de notre auto. Comme elle se tient bien le dos. Elle me demande où on peut louer une autolibre dans le quartier. Non! Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile.
Non.
Des automobiles,
non.
Des automobiles,
non.
Des automobiles partout. Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. Partout, partout, partout.
C'était Philippe Catherine qu'on entendait sur Calade avec un morceau qui s'appelait Automobile. J'imagine que vous l'avez deviné.
Ensemble sur Calade.
Et on va pas particulièrement parler d'automobile en fait aujourd'hui. On va parler de la maison Vermorel. Et pour nous en parler aujourd'hui avec moi en studio, on retrouve Charline Maurice, directrice adjointe à la culture de Villefranche. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venue nous voir. On va parler du coup de cette Maison Vermorel, dont je disais dans l'introduction que Villefranche prend grand soin depuis quelques années déjà.
Effectivement, c'est un projet que la ville porte depuis plusieurs années déjà, depuis que la Maison Vermorel a été donnée à la ville. Ouais. Et que la ville a décidé il y a quelques années d'en faire un futur lieu, tiers-lieu, en tout cas un lieu innovant, à la croisée entre le culinaire, puisqu'il y aura un restaurant, des ateliers de cuisine, des food lab ateliers de cuisine, un bar à vin, aussi un espace culturel, avec un espace muséographique qui retracera le parcours de Victor Vermorel, de ses inventions, de ses industries, mais aussi plus généralement du Beaujolais à cette époque, et puis du territoire du Beaujolais. Ouais. Et on aura aussi des événements culturels qui seront organisés, et un espace de bureau. Donc c'est un lieu qui sera à la croisée entre ces trois mondes, et un lieu d'accueil ouvert à tous pour la politique culturelle de la ville.
Et c'est peut-être pas forcément dans la maison, mais c'est dans le parc. Il y a une résidence d'artistes aussi.
Alors, juste en face de la maison, à côté, ce sont les anciennes écuries de la maison qui ont été transformées en atelier d'artistes, qui a été inauguré en septembre 2021, avec un atelier qui est plus pour les artistes en art visuel, art numérique, qui leur procure un bel espace de travail et de création. Puis au-dessus aussi, un appartement qui nous permet de recevoir des artistes qui sont vraiment en résidence, plongés dans leur œuvre, comme c'est le cas actuellement de Sabrina Vitali.
Ouais.
Et ensuite, on accueillera Vincent Bride. On a une programmation comme ça sur 2022, 2023, 2024. Et l'idée, c'est qu'il y ait toujours plusieurs artistes en résidence.
Et ce projet vraiment avec la maison réunir le culturel et le culinaire, l'ouverture définitive de tout ça, quand est-ce qu'on pourra dire ça y est, les travaux sont terminés? On a déjà une idée ou ça?
Alors les travaux sont en cours, en bonne voie. On prévoit l'ouverture de la maison pour premier trimestre, début d'année 2024.
D'accord. En attendant, il se passe quand même des choses dans le parc.
En attendant, il se passe des choses. L'idée pour la direction de la culture et pour la ville de Villefranche, c'est de préfigurer ce que sera la Maison Vermorel pour donner envie aux gens de venir dès qu'elle sera ouverte. Et puis toujours dans cette idée de que ce soit à l'image de ce que sera la maison, c'est-à-dire pas un lieu uniquement culturel, mais associant culturel et culinaire. Donc c'est pour ça que la direction de la culture et la ville propose les parcours Vermorel, culturel et gourmand, en trois saisons. On a eu le printemps fin avril. On a eu tout l'été, comme vous le rappeliez, des concerts et des séances de cinéma en plein air autour de films, autour du culinaire, dans le parc Vermorel. Et donc là, on se retrouve pour l'automne.
Ouais. Il y a toujours à manger quelque part.
Il y a toujours à manger quand on est à Vermorel.
Et j'ai l'impression qu'il y a de l'interactif, en tout cas dans la journée qu'il y a eu au mois d'avril et celle qui aura lieu le 2 octobre, on n'est pas juste spectateur. À chaque fois, il y a des petites activités où on peut mettre la main à la pâte.
Alors, ce sera aussi ça à l'image de ce qu'on veut que soit la maison, futur tiers-lieu, où les gens seront partie prenante, participants, pour venir s'impliquer aussi dans la maison. Et c'est le cas dans ce qu'on propose, puisque là, il y aura un atelier participatif, notamment avec Philippe Goulois, qui demande aux visiteurs, aux gens qui seront présents ce dimanche, qui pourraient imaginer, eux, comme programmation dans la maison. On a déjà fait ça en avril,
ouais,
qui a donné lieu à l'occasion d'une petite gazette d'idées de gens, de ce qu'ils voudraient voir dans le parc Vermorel. Donc des idées qu'on va aussi retenir, nous, pour nos futures programmations.
Ouais.
Là, on va faire la même chose pour la maison. Et puis c'est pareil, le concert qu'on propose, le public est partie prenante. Hein, le concert du Big Band de l'œuf, public est partie prenante aussi.
On va en parler. On fait le tour un peu du programme de cette journée du 2 octobre. C'est de 14h à 20h. Ça se passe à la fois dans la maison et dans le parc.
Alors pas dans la maison, puisque dans la maison
on n'a pas
accès à la maison. La maison, c'est un chantier, donc on n'a pas accès, on peut pas encore visiter la maison. Si on sait que les gens s'impatientent, ce sera pour bientôt. Donc on est encore là dans le parc, dans la plaine, où se tiendra un marché de producteurs locaux. On a une dizaine de producteurs qui viendront proposer leurs produits. Donc on a un brasseur, des viticulteurs, un producteur de moutarde, un producteur de chocolat, voilà, différents producteurs dans la plaine. Et puis après, dans l'amphithéâtre, dans le théâtre de verdure derrière, dans l'amphithéâtre, on aura le concert à partir de 18h.
Très bien. Et j'ai vu qu'il y avait l'Institut Vermorel et l'Automobile Vermorel qui seraient pas loin. Qu'est-ce que c'est que l'Institut Vermorel ?
Alors, l'Institut Vermorel, c'est l'institut qui a en partie recueilli un certain nombre d'archives de Victor Vermorel et des usines Vermorel. Et là, l'Institut sera présent en tant que partenaire. Donc, ce sera l'occasion de venir découvrir ce que propose l'Institut qui est pas loin, puisqu'il est 210, donc pas loin du tout du parc. Et on aura la chance d'avoir une ou deux voitures Vermorel
exposées dans le parc. Parce qu'il a aussi fabriqué. Je connaissais la fameuse sulfateuse qui est...
Alors, il y a aussi une des voitures dans les usines Vermorel. Vous aurez justement Philippe Branche qui proposera toujours l'histoire de Victor Vermorel et l'Institut pour en apprendre plus sur toutes les industries développées par Victor Vermorel.
Très bien. C'est le côté patrimoine, on va dire, de cette journée. Il y a le côté artistique, avec des artistes présents. Il y a l'exposition Gourmandise de Vincent Bride qui sera exposée, justement.
C'est ça. Vincent Bride, c'est là un artiste verrier qui est en résidence de 2022 à 2024 encore à la Maison Vermorel. Vincent Bride proposera une œuvre qui sera ensuite installée sous la verrière de la maison, qui commencera à travailler, à préfigurer dans l'atelier justement à partir de janvier 2023. Et puis il propose à travers cette résidence aussi beaucoup d'actions de médiation, de transmission. En avril dernier, on a eu l'éclair Vermorel. Et là, cette année, la proposition de Vincent Bride était de faire une exposition. Lui, il a fait des créations en verre autour du thème des gourmandises. Et on a lancé en mai dernier un appel à projet aux artisans d'art et aux créateurs de la région, du Beaujolais, pour proposer leurs œuvres autour de ce même thème de gourmandise.
D'accord.
Donc le jury présidé par Vincent Bride en a sélectionné 6. Donc on aura 6 créateurs qui exposeront sous un chapiteau, sous forme un peu de cabinet de curiosité, qui exposeront leurs œuvres à côté de celles de Vincent Bride.
Et tout type d'œuvres, Vincent Bride, il est verrier, mais...
Alors ce sera tout type de matériaux, oui. On aura effectivement on aura une proposition en peinture, on a une proposition avec du métal, on a différents matériaux. Le point commun, c'est que ce soit autour du thème des gourmandises.
D'accord, bon. On pourra également visiter l'atelier de résidence, du coup, tout au long de l'après-midi. Et là, ce sera avec l'autre artiste en résidence, c'est Sabrina Vitali. Elle aussi, elle crée des œuvres qui vont rester à Villefranche.
Sabrina Vitali, effectivement, proposera de visiter son atelier et d'expliquer la démarche de l'œuvre qui va être installée très prochainement sur le parvis de la gare à Villefranche, courant en fin d'année, en novembre-décembre. Cette œuvre sur le parvis de la gare, c'est une œuvre en triptyque, en verre, qui est une représentation sensible du Beaujolais qu'elle a réalisé en prenant les terres du Beaujolais, en travaillant aussi beaucoup avec c'est aussi issu du travail de réflexion et de partage qu'elle a pu faire avec les enfants des écoles qu'elle a mené tout au long de l'année dernière, où elle leur a demandé de dessiner leur territoire, de faire représenter sur les cartes leur cheminement. Et c'est tout ça qu'on peut voir à l'atelier lors de ces visites.
On l'avait rencontrée en avril, lors de la première journée du parcours Vermorel. Je propose qu'on écoute un petit peu quand elle nous parle de son travail.
C'est une résidence de 2 ans, où il y a vraiment une dynamique à la fois de création d'œuvres pérennes pour le parvis de la gare de Villefranche, qui est en train d'être produite en ce moment. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect transmission. À chaque fois, j'essaie de proposer des ateliers qui sont en lien direct avec la création de cette œuvre, puisqu'il s'agira de grands vitraux sur le thème de la cartographie du territoire beaujolais. Et donc, avec les élèves de primaire, on a commencé en janvier à travailler sur la question de la cartographie, qu'ils ont produit des grands dessins qu'on peut voir aujourd'hui exposés dans l'atelier Vermorel. Ensuite, on a fait ces vitraux. Et avec les maternelles, là, le mois d'avril, On a fait tout un travail olfactif sur l'appréhension comme ça du paysage par les odeurs, et je racontais une histoire et en même temps on sentait, voilà, l'odeur de la colline, l'odeur de la forêt, le jardin de fleurs. Et donc c'est à chaque fois une approche du paysage, du territoire et de la transparence à travers des médiums différents.
Voilà, c'était Sabrina Vitali qui nous parlait de son travail dans le cadre de sa résidence à la Maison Vermorel. On pourra donc visiter cet atelier, c'est de 14h à 16h, je crois qu'il faut s'inscrire.
C'est sur réservation les visites, puisqu'on peut être 15 personnes pour visiter l'atelier, donc c'est sur réservation auprès du secrétariat de la culture de Villefranche.
Très bien. À 17h, on continue le programme. Il y a une conférence. Alors là, on passe plutôt du côté culinaire.
Culinaire.
On va rencontrer Jean-François Mesplède.
Alors Jean-François Mesplède, c'est l'ancien directeur du guide Michelin, donc qui a attribué pendant longtemps les étoiles aux différents restaurateurs et qui est installé, qui est caladois depuis quelques années, qui viendra donc faire une conférence sur un chef caladois, Roger Fessaguet, le livre qu'il a publié l'année dernière, Un caladois à New York. Et ce sera aussi l'occasion, ce 2 octobre, même surtout l'occasion pour Jean-François de sortir son guide, puisqu'il a sorti un guide uniquement sur les restaurants de Villefranche et du Beaujolais.
Wow,
un guide qui s'appelle Gourmandise en Calade, dans lequel il a fait une sélection des bonnes tables de Villefranche et du Beaujolais, avec à chaque fois une présentation du restaurateur. Alors c'est l'idée de mettre en valeur cette cuisine caladoise et ses chefs, avec qui nous aussi on a vocation à travailler au sein de la Maison Vermorel. Voilà, ces restaurants qui proposent toutes sortes de, pour tous les budgets et toutes sortes de propositions sur Villefranche. Donc ce guide les mettra en l'honneur et ce sera l'occasion de, il sera lancé et vous aurez l'occasion de le découvrir à cette occasion.
Très bien. Donc une espèce de guide Michelin.
Une espèce de guide Michelin de la Calade. Alors qui met pas d'étoiles, mais qui a vraiment plutôt vocation à faire connaître les chefs, les produits et leur manière, avec aussi une proposition à chaque fois de 3 vins du Beaujolais proposés à la carte de ces restaurants.
Oui, évidemment, il fallait parler du vin un petit peu. Et puis si le programme il va se terminer pour cette journée du 2 octobre avec un concert, c'est pas que un concert, c'est le Big Band de l'œuf. Expliquez-nous ce qui va se passer.
Alors effectivement, c'est pas un concert, le Big Band de l'œuf, donc ça réunit les meilleurs solistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui proposent aux spectateurs une expérience un peu particulière, dans le sens où les spectateurs doivent choisir parmi un menu. Donc c'est eux qui font leur menu et les propositions qui commandent, entre guillemets, au Big Band, ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils ont envie d'écouter. Donc il y a toute une mise en scène derrière, c'est pas seulement un concert, il y a toute une mise en scène, toute une scénographie par ces musiciens du Big Band de l'œuf. Et au fur et à mesure du programme des musiciens, qui est donc choisi par le public, ces musiques inspirent un chef qui est Maxime Bordet de la Brasserie du Théâtre à Villefranche, qui viendra cuisiner sur scène en fonction de ce que lui inspire les titres et les musiques proposées par le Big Band. Et puis des chanceux spectateurs tirés au sort pourront ensuite déguster les propositions de Maxime en accord avec la musique. Effectivement, c'est pas un concert habituel, c'est toujours sur notre thématique, on lit la culture et le culinaire, puisqu'il y a tellement de liens à faire entre ces deux aspects de créativité, de plaisir et de convivialité. Et les spectateurs sont partie prenante.
Ouais, j'imagine qu'il ne va pas pouvoir cuisiner pour l'ensemble du public.
Non.
Tout le monde ne pourra pas goûter, mais on aura l'odeur déjà en même temps que la musique.
Et c'est ça, il y aura l'odeur, il y aura le visuel. On sera bien installé dans le théâtre de verdure derrière. On aura prévu aussi les plaies pour ceux qui craignent d'avoir un petit peu froid, et on sera bien installé pour profiter de ce moment musique et culinaire.
Bon, on devrait passer une bonne journée donc le 2 octobre, et puis si jamais on a faim, il y a un food truck qui est présent toute la journée.
Tout au long de l'après-midi, le food truck Allez on mange, avec qui on travaille, que vous avez déjà vu au cinéma ou dernièrement le 30 avril, qui proposera cette fois-ci une crêpe partie pour les goûter tout au long de l'après-midi.
Parfait. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce programme. Donc le rendez-vous est donné à partir de 14h, on peut arriver.
À partir de 14h au parc Vermorel dimanche.
Parfait. Merci beaucoup, très bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Ensemble sur Calade.
On parlait du Big Band de l'œuf, on va les écouter. Là, on entend déjà quelques petites notes. Un morceau qui s'appelle Cuisse de coulisses. D'écouter le Big Band de l'œuf avec un morceau qui s'appelle Cuisse de coulisses. Ils seront en concert si le temps le permet, m'a-t-on indiqué, dimanche 2 octobre à l'occasion du parcours de la maison Vermorel organisé par la ville de Villefranche.
Ensemble sur Calade.
Mots croisés.
Oui, une nouvelle rubrique qui s'appelle Mots croisés. Et pour nous la présenter, on retrouve Céline Benck. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être de débuter cette nouvelle rubrique Mots croisés. En préparant l'émission ce matin, je me suis demandé comment est-ce que vous l'écririez, parce qu'on l'a dit à l'oral.
Ah, bah, c'est intéressant. Oui, on pourrait l'écrire de deux façons, à la fois M-O-T-S et M-A-U-T. X, ouais. Parce que voilà, avec des mots, on vient parler des mots.
Bon, ça restera au choix. Vous êtes conseillère conjugale et vous allez nous donner des conseils régulièrement dans ce sujet-là, c'est ça ?
Alors, c'est ça. En fait, souvent, les gens pensent que conseillère conjugale et familiale, c'est un métier où on vient chercher des conseils et où je viens en donner. Alors, en fait, c'est un terme qui vient de l'anglais. on dira plutôt qu'on vient tenir conseil. C'est un peu la même expression que conseil municipal. C'est en fait, on se réunit et on tient conseil, et moi je suis là pour aider à la réflexion. Donc je ne suis pas là pour donner des conseils. Alors évidemment, je vais pouvoir donner des outils, des choses à travailler aux gens, mais je ne suis pas là pour leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent dans leur vie, bien évidemment.
Vous n'avez pas de baguette magique ?
Eh bien non, je ne suis pas magicienne.
D'accord, donc on va tenir conseil chez une conseillère conjugale. Ça sert à quoi ?
Alors, ça sert. Eh bien, ça sert à plein de choses. Ça sert à... Déjà, on n'est pas là pour réparer le couple ni le séparer, quand on parle du conjugal, évidemment. Mais c'est surtout faire en sorte que les deux partenaires puissent mesurer par eux-mêmes les enjeux de ce qui les lie ou de ce qui les sépare, en fait, et qu'ils prennent conscience de pourquoi ils sont encore ensemble, qu'est-ce qu'ils ont envie de continuer de construire. Et puis, s'ils se séparent, pourquoi ils se séparent ? Qu'ils savent repartir avec quoi faire le point sur ce qu'ils ont vécu et savoir pourquoi ils en sont arrivés là.
Ouais. Et pas que ce soit une rupture qui laisse des questions et des interrogations et
voilà, tout à fait.
Ça reste flou.
On a toujours besoin d'en apprendre quelque chose, surtout si ces personnes-là refont un autre couple après, de savoir en tirer quelque chose pour un prochain couple, en fait.
Comment est-ce qu'on devient conseillère conjugale ?
Alors, il y a une formation qui dure grosso modo 3 ans. Il y a 2 ans de formation et un mémoire à rédiger qui prend à peu près une bonne année, plus une soutenance. On a des stages à faire aussi, beaucoup de lectures aussi également. Voilà, c'est une formation qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des notions de biologie, de physiologie, de sociologie, sexologie, de psycho, d'anthropo. En fait, c'est un domaine qui est lié à la fois à la santé, au social, à la sexualité, à la parentalité. Donc, c'est vraiment multidiscipline.
Et vous, personnellement, comment est-ce que vous êtes dit un jour, je vais me lancer dans cette carrière-là, dans cette direction ? Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Alors, ce que j'ai oublié de dire au début, c'est qu'en fait... la conseillère conjugale, enfin les conseillères conjugales ou les conseillers conjugaux, parce qu'il y a des hommes aussi, on intervient à la fois auprès des couples, hein, c'est la majorité de nos interventions, mais il y a aussi beaucoup d'interventions qui sont faites aussi auprès des jeunes, notamment dans les établissements scolaires, où on rencontre des élèves en primaire, collège et lycée, pour parler de tout ce qui concerne l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et en fait, moi, j'ai commencé par ça. Et ça m'a vraiment intéressée. Et du coup, petit à petit, j'ai voulu aussi approfondir. Quand ces jeunes grandissent, ils deviennent des adultes. Et la relation de couple, je la trouve fascinante, complexe, fois compliquée. Et envie de comprendre un peu les mécanismes et de pouvoir aider à la fois les jeunes qui dans la vie, apprennent à aimer, et aussi les adultes qui se retrouvent des fois dans des situations compliquées.
Ouais. Et c'est peut-être justement quand on est jeune qu'on apprend tout, et que si on apprend de travers, ça peut être problématique par la suite, c'est ça ?
Alors c'est sûr que si on... Enfin, tout dépend aussi de ce qu'on a reçu dans notre famille par rapport à tous ces sujets-là.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'à l'école, on n'apprend pas forcément à gérer ses émotions, on n'apprend pas à s'aimer, on n'apprend pas forcément à écouter l'autre. Et ça, on peut le faire quand on est jeune, c'est vrai que c'est idéal. Mais si on ne l'a pas fait, tout n'est pas fichu, heureusement. À l'âge adulte, moi je vois des fois des personnes de 70 ans qui découvrent en fait qu'est-ce que c'est que écouter vraiment. Et ça, c'est très beau.
Ouais, j'imagine. C'est quoi la différence entre une conseillère, conjugale, conseiller conjugal et familial ? Du coup, on l'a jamais dit, mais
oui, tout à fait. C'est conseillère conjugale et familiale, c'est-à-dire qu'il y a la relation. En fait, on est spécialiste de la relation. C'est une relation à soi, donc tout ce qui concerne la connaissance de soi, l'estime de soi. Relation aux autres, donc ça va être les relations familiales, les relations amicales. Donc, je peux recevoir des gens qui viennent, un père et son fils, par exemple. Ou une mère et sa fille, ou l'inverse. Hein. Et les relations donc aux autres, et les relations plus à l'autre dans la relation conjugale.
D'accord. Et donc, la différence du coup avec, un thérapeute, un psychologue
Alors, Le conseiller conjugal et familial, il n'est pas psychothérapeute. Il est formé pour comprendre un certain nombre de mécanismes psychologiques. Mais on ne va pas analyser les blessures psychiques avec les personnes qui viennent consulter. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a un travail plus en profondeur à faire au niveau des blessures psychiques, eh bien on va renvoyer vers un psychologue. Ceci dit, la frontière entre thérapeute et conseillère conjugale, et c'est assez fin, parce qu'on peut être aussi sexothérapeute. Et c'est vrai que des thérapeutes, il y en a de toutes sortes. Donc, conseiller conjugal, c'est vraiment une formation qui est, on reçoit une certification. La plupart des conseillers conjugaux font partie de l'ANCEF, qui est l'Association nationale des conseillers conjugaux de France. Et du coup, on signe une charte, comme quoi on s'engage à avoir une supervision et avoir une analyse de la pratique et une formation continue.
D'accord, vous n'êtes pas libre de lâcher dans la nature.
Non, donc là, c'est quand même réglementé et heureusement. Ouais. Et donc pour reprendre votre question, la médiation familiale est souvent confondue avec le conseil conjugal. Ouais. Donc la médiation familiale, c'est vraiment par rapport aux couples qui ont déjà pris la décision de se séparer. Et ça va être là pour les aider à aménager leur séparation, souvent dans le bien et dans l'intérêt de l'enfant ou des enfants. C'est une décision qui peut être demandée par le juge.
D'accord.
Voilà, mais les personnes peuvent aussi d'elles-mêmes demander un entretien avec une médiatrice familiale.
C'est deux choses différentes.
C'est deux choses différentes, mais on a quand même une formation en commun, tout ce qui concerne l'écoute, notamment la communication non violente, les outils qu'on peut utiliser sont les mêmes, mais il y a un aspect juridique qui est beaucoup plus important au niveau de la médiation.
D'accord. Et alors, à quoi ça pourrait ressembler une première séance chez un ou une conseillère conjugale? Ça se passe comment?
Alors déjà, ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'on peut venir à deux, mais on peut venir seul. C'est-à-dire que si mon conjoint n'a pas envie de venir, déjà si je viens seul, ça peut aider à faire bouger les choses.
Ouais.
Parce que je vais prendre conscience de certaines choses. Donc quand les personnes viennent, déjà moi je présente le cadre dans lequel je travaille. C'est important de poser un cadre bien défini, donc je me présente aussi évidemment. Et après je leur laisse la parole, savoir qui ils sont, leur histoire un peu, c'est assez rapidement évoqué. Et puis après on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'ils sont là, chacun, et ils prennent la parole chacun en leur nom. Pour exposer leurs soucis relationnels. Ça peut être des toutes petites choses, mais ça peut être des choses beaucoup plus importantes. Donc on va poser le problème en termes clairs, et ils vont aussi définir leurs objectifs. Pourquoi ils viennent là, et qu'est-ce qu'ils attendent de ce rendez-vous.
Et il faut savoir ce que c'est le problème, du coup.
Eh bien oui, qu'est-ce que c'est le problème? Ça peut être plein de choses. Ça peut être souvent il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de manque d'écoute, hein, où on ne sait pas bien écouter l'autre, on n'arrive pas bien non plus à parler de soi, de ses besoins. Donc je vais faciliter tout ça pour que la parole puisse être dite et pour qu'elle puisse être entendue.
Ouais, aussi.
Et après, le travail, ça va être un peu d'ouvrir comme si on avait une grande commode avec plein de tiroirs, et on va aller ouvrir tous les tiroirs de la relation.
D'accord. Bon, ça a l'air d'être du boulot quand même.
Eh oui.
Très bien. Donc, on vous retrouve dans deux petites semaines pour nous présenter un petit peu différents aspects de la relation conjugale.
Voilà, tout à fait. Ou la relation familiale. Enfin, différents thèmes à aborder.
Vous avez déjà une idée de quoi vous allez nous parler dans la prochaine chronique? Pas encore.
Je ne sais plus. Il y a plein d'idées, donc je vais piocher.
Surprise, surprise. Vous avez le temps d'y réfléchir. Merci beaucoup d'être venu.
Je vous en prie, merci à vous.
Et puis à très bientôt.
Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, un petit peu de musique avant de parler littérature. On écoute L'Homme pâle. Voici Hasardé.
T'es l'amour de ma vie, mais c'est pas ma seule vie. Je t'aime comme un espion. Tu sais pas encaisser moi, je sais pas mentir, me pose pas de questions. Moins tu dors, moins t'arrives à dormir, jette un alprazolam dans ton infusion. Y'a pas de problème, y'a que des solutions. Cette vie est horriblement belle, profitons avant de finir dans le cahier de light. Tes amis n'avancent pas assez vite, la peur et le doute vont les prendre en tenaille. On se balade puis on se perd dans une forêt de séquoia. Oh, tout est foutu mais le déni a un goût de coya. Hasardé, de mieux. Me dis pas que tout est possible. J'ai même pas ce que je veux. Le cœur est calé, la tête est calée. Le cœur est calé, mais remets-en quand même encore un peu. Trop belle comme une briseuse de cœur, faut beaucoup de courage pour aller lui parler. Mais tu vas quand même lui dire plus de fois le mot love qu'un disque de Marley. Elle savait déjà qui t'étais, pourquoi te jeter sur son pare-brise. Oh, chacun sa vérité et chacun son prix. Ah ouais, je suis pas content ce soir pour le même verre de poison, j'ai dû payer doublement. Et tu comprends bien que ça n'a aucun putain de sens de se redire adieu tous les mois. Loin d'être en danger, le danger c'est moi. Le temps m'a bien changé, la richesse moins. Hasardé, j'ai rien faire de mieux. Me dis pas que tout est possible. J'ai même pas ce que je veux. Le cœur est calé, la tête est calée. Le cœur est calé, mais remets-en quand même encore un peu. Hasardé, j'ai rien faire de mieux. Plus je sais que tout est possible, moins je sais ce que je veux. Le cœur est calé, la tête est calée. Entièrement calé, mais remets-en quand même encore un peu.
On vient d'entendre l'homme pâle à l'antenne avec l'un de ses derniers morceaux, ça s'appelait Hasardé. J'ai oublié de préciser que Céline Benck, qui était avec nous il y a quelques minutes, notre conseillère conjugale, eh ben, vous pouvez la retrouver. Elle a un cabinet rue de la Gare à Villefranche et un site internet conseilconjugal-célinebenck.com.
Encore un peu de lecture.
Ensemble sur Calade.
Mais bon, mais c'est un bon bouquin, je veux dire, c'est sérieux.
L'humeur littéraire du libraire.
Et oui, il est l'heure de parler littérature, et pour cela, on retrouve notre libraire Bertrand Lamure. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bah oui, du coup, je vais parler littérature, puisque si c'est ton souhait.
Il est l'heure.
Alors, on va un tout petit peu continuer sur notre rentrée littéraire, hein, que je rappelle, est toujours d'actualité, puisque nous, quand on parle de rentrée littéraire, on va de mi-août jusqu'à fin octobre, ouais. Même si la partie octobre, il y a un peu moins de sorties. Alors, je voulais mettre l'accent surtout sur deux ou trois titres. Je voudrais commencer par un titre que j'ai qui m'a assez déstabilisé, il faut bien le dire. Ça s'appelle L'épouse de Anne-Sophie Sublia. Et c'est proposé aux éditions Zoé. Alors, les éditions Zoé est une maison d'édition qu'on aime beaucoup. Alors, une maison d'édition de femmes et qui se trouve à Genève, donc Suisse. Donc, ils ont toujours des titres assez, un petit peu décalés ou autres. Alors, Anne-Sophie Sublia, voilà, moi je l'avais déjà rencontrée dans d'autres titres comme Neige intérieure. Et là, avec L'épouse, elle nous emmène dans un coin du monde que, alors pour ma part, que je connais, la manière dont elle le traite, c'est très intéressant. Alors ce coin du monde, c'est la bande de Gaza. Ouais. Donc la bande de Gaza, on a plein de fantasmes autour de ce lieu. Et là, l'approche est très originale. En fait, on est dans les années 70, et l'épouse, qui n'est jamais nommée, hein, c'est la femme, l'épouse, elle est la femme d'un expatrié qui travaille pour la Croix-Rouge. Et on va suivre cette femme qui, elle vient de la bourgeoisie suisse, étant elle-même anglo-suisse. Et du coup, c'est très très intéressant parce qu'en fait, c'est fait partie de ces romans où il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins quelques mois de la vie de cette femme qui est une expatriée, dont le mari a l'air de travailler beaucoup, et du coup qui boit beaucoup pour oublier les visites en prison, l'occupation israélienne, etc. Et elle, elle ne fait rien, elle est dans cette maison, alors une maison qui est un peu en limite de Gaza. On est dans les années 70, donc aujourd'hui Gaza, c'est une toute autre ambiance, à la fois par la densité de population la plus forte au monde, toujours évidemment l'occupation israélienne, toujours le blocage, et puis aujourd'hui en plus avec le Hamas, donc autant dire que les Gazaouis ont la belle vie. Et dans ces années 70, on est un peu entre deux eaux, c'est-à-dire Gaza vient d'être occupée par les Israéliens après la guerre des six jours et du Kippour, et on est encore dans ce monde où Gaza, c'est une bande de terre, et donc il n'y a pas la densité. Et là, elle habite une maison à côté, et on la suit comme ça, dans ses découvertes, dans ses déplacements. C'est assez surprenant, parce qu'on a l'impression qu'elle, par moments, qu'elle n'est pas forcément très pro-palestinienne, parce qu'elle aime bien aller à Tel Aviv, et en même temps, très vite, elle s'aperçoit des drames de l'occupation. Donc c'est un livre qui est vraiment dans la veine des éditions Zoé. C'est-à-dire que c'est très zen, très décalé. C'est un livre qui est très prenant, en fait. Derrière l'idée, j'ai commencé en disant qu'il ne se passait rien. Et c'est souvent ces titres-là où il ne se passe rien. Et en fait, on est complètement happé par une ambiance, un personnage. Et c'est très déroutant parce qu'à chaque fois, on se dit, mais... Au début, je l'ai pas du tout aimé, hein, cette femme. Hein, c'est une sorte de grande bourgeoise suisse qui débarque chez les Arabes et qui les trouve tellement sympas. Les souks, c'est tellement sympa. Je vais acheter de beaux tapis, etc. Elle a un petit personnel à... Et puis, progressivement, voilà, cette femme, elle perd un peu pied dans tout ça, dans ses certitudes. Et donc, c'est un texte très touchant. L'épouse de Anne-Sophie Subilia chez Zoé.
Très bien, c'est bien noté.
Alors, autre chose, un livre très très attendu pour ma part. J'avais peut-être évoqué sur cette antenne le très bon polar, c'était le premier polar de Gwenaël Bulteau. Il avait écrit « La République des faibles ». C'était fin 19e siècle, Lyon, l'univers de la Croix-Rousse, l'univers à la fois des chiffonniers de la Croix-Rousse, et puis fin 19e, Dreyfus, etc. C'était un polar super bien fait, polar historique qu'on lâchait pas. C'était à très bonne maison d'édition dont j'ai déjà évoqué, qui est la Manufacture de Livres. Et là, bah évidemment, quand on a bien aimé un polar, on s'est dit, il va falloir quand même qu'il bosse le coco pour qu'on ait la suite. Enfin, qu'on ait un nouveau. Et c'est arrivé. C'est en train d'arriver, puisqu'il sort ces jours-ci. Ça s'appelle Le Grand Soir. Et donc là, Gwenaël Bulteau nous plonge en 1906. Alors 1906, avril 1906, il y a eu un drame de mineurs dans le nord de la France, avec des centaines de morts. Ça met en avant les conditions de vie, les conditions salariales, les conditions de tout simplement de travail qui sont extrêmement dures. Dans le même temps, on a un nouveau ministre de l'Intérieur qui s'appelle Clémenceau, qui va s'avérer être très dur. Et on se dit que ce mois d'avril, si l'heure des grandes manifestations de la fête du travail du 1er mai, ça ne pète pas, et ben c'est que c'est pas normal. Donc le grand soir, c'est ça, c'est cet avant 1er mai. Tout ça est un polar quand même, puisque au travers de ce drame, il y a une jeune femme de la grande bourgeoisie parisienne, qui disparaît. Alors elle s'était, entre guillemets, accoquinée avec ses ouvriers, avec des ouvrières, étant très mal dans son milieu, ayant rejoint un peu le combat ouvrier, et elle disparaît. Et donc l'enquête se mène justement dans ce monde ouvrier, mais aussi dans ce monde de cette grande bourgeoisie du début du XXe siècle. Et c'est pareil, c'est absolument passionnant sur l'univers historique et effectivement sur cette trame dans les faubourgs à la fois du nord, de Paris. Et je ne vous dirai pas si le grand soir est là.
Mais en attendant,
Pardon.
Qu'est-ce qui va se passer ce 1er mai, du
coup? Oui, et ben voilà, je ne le dirai pas. mais en tout cas, c'est très bien fait et je suis pas déçu parce que c'est vrai qu'après un polar qui a été très très apprécié et qui était assez extraordinaire, on se dit le deuxième, oulala. Et en fait, c'est très bon aussi. Pareil, polar, si à 2h du matin, vous n'avez encore pas lâché ce polar et vous dites, faut que j'aille jusqu'au bout, c'est que c'est très bon.
Voilà. Très bien,
voilà.
C'est bon signe.
Voilà. Si on s'endort dessus, si on s'endort sur un polar, c'est quand même un peu moyen.
Ok. Le grand soir, Gwenaël Bulto. Et c'est toujours
tout
la manufacture de livres ou pas?
Tout à fait, la manufacture de livres. Voilà, très bonne maison d'édition, comme d'habitude. Tu as encore une minute, j'espère.
Oui, bien sûr. 3 minutes. Toi.
Alors, super. Justement, cette fois, pour un peu changer. J'avais envie, parce que je parle très souvent de littérature. Tout à fait normal, mais j'avais envie d'évoquer un essai, et un essai d'un diplomate. C'est un diplomate que j'apprécie assez parce que il fait toujours des analyses intéressantes. C'est Gérard Arrault. Alors Gérard Arrault a été ambassadeur de France, bien sûr, dans différents pays, en particulier en Israël et surtout aux États-Unis. Donc évidemment, autant dire ambassadeur de France aux États-Unis, c'est le graal absolu hein, dans le monde feutré de la diplomatie. Et il avait écrit, parce que maintenant ce brave homme est à la retraite, des titres très intéressants, et en particulier Passeport diplomatique, où il évoquait effectivement un peu ses mémoires. Donc c'était passionnant d'être un peu dans l'intérieur d'une ambassade aussi sensible, entre autres, que l'ambassade des États-Unis. Et là, il revient avec Histoire diplomatique, au pluriel, Leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui, chez Grasset. Et il évoque toute une série, dans l'histoire, justement, et c'est ça qui est très intéressant, dans l'histoire, toute une série de grands moments diplomatiques. Donc pas forcément contemporain. Alors il termine quand même autour de l'Irak, l'Irak avec la guerre du Golfe version 1, version 2, où il était justement en poste, lui, à Washington ou au Quai d'Orsay, et donc vraiment vu de l'intérieur. On a tous en tête le discours de Villepin, Chirac et compagnie. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est comment un diplomate voit les grandes manœuvres ou les grands moments diplomatiques de notre histoire. Alors, il en a quelques-unes. Donc, évidemment, le but, c'est, je ne vais pas vous les refaire, surtout en une minute. Mais si vous avez envie de vous plonger dedans, alors il évoque très bien le congrès de Vienne. Alors, le congrès de Vienne, c'est 1815. Et c'est l'après-Napoléon. Donc Napoléon lui a dit, allez tiens, on t'a trouvé une île assez sympa au milieu de l'Atlantique, à Sainte-Hélène. Allez, tu verras, tu seras bien. Et nous, on s'occupe de refonder l'Europe. Donc c'est l'époque de Talleyrand, voilà. C'est vraiment le nec le plus ultra de la diplomatie. Donc très intéressant. Et j'ai aussi trouvé très très intéressant juin 40. Donc juin 40 qui est un désastre pour nous, évidemment, ouais. C'est l'invasion allemande, c'est l'arrivée de Pétain, et il l'analyse très bien, et en particulier, il revient sur, il a de très belles descriptions sur les accords de Munich, donc les accords de Munich c'est 1938, où effectivement nous on a un peu baissé notre culotte, pour faire simple, face à Hitler et Mussolini, et c'est très bien vu parce que c'est aussi tout ce jeu diplomatique, on le voit aujourd'hui avec un certain Poutine, où comment on essaye de faire jouer la diplomatie, et on voit bien que ça marche pas tout le temps, mais parfois on a envie de se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas, d'abord de faire passer les diplomates avant les militaires. Voilà.
Donc c'est
de très bonnes analyses de Gérard Arrault.
Histoire diplomatique, édition Grasset.
Édition Grasset Gérard Arrault. Et puis l'épouse, le grand soir. Voilà. Donc là, il y a un trio magnifique de lecture pour les jours à venir.
Très bien, merci beaucoup Bertrand.
Eh bien, merci à vous. Belle journée à tous.
Très bonne journée. À la semaine prochaine.
Ensemble sur Calade.
Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h12.